Locke, traité du gouvernement civil, chapitre 8, du commencement des sociétés politiques. 95. Les hommes, ainsi qu'il a été dit, étant tous naturellement libres, égaux et indépendants, nul ne peut être tiré de cet état et être soumis au pouvoir politique d'autrui sans son propre consentement, par lequel il peut convenir avec d'autres hommes de se joindre et s'unir en société pour leur conservation, pour leur sûreté mutuelle, pour la tranquillité de leur vie, pour jouir paisiblement de ce qui leur appartient en propre et être mieux à l'abri des insultes de ceux qui voudraient leur nuire et leur faire du mal. Un certain nombre de personnes sont en droit d'en user de la sorte, à cause que cela ne fait nul tort à la liberté du reste des hommes, qui sont laissés dans la liberté de l'état de nature. Quand un certain nombre de personnes sont convenues ainsi de former une communauté et un gouvernement, ils sont par là en même temps incorporés et composent un seul corps politique, dans lequel le plus grand nombre a droit de conclure et d'agir. 96. Car, lorsqu'un certain nombre d'hommes ont, par le consentement de chaque individu, formé une communauté, ils ont par là fait de cette communauté un corps qui a le pouvoir d'agir comme un corps doit faire, c'est-à-dire de suivre la volonté et la détermination du plus grand nombre. Ainsi, une société est bien formée par le consentement de chaque individu. Mais, cette société étant alors un corps, il faut que ce corps se meuve de quelque manière. Or, il est nécessaire qu'il se meuve du côté où le pousse et l'entraîne la plus grande force, qui est le consentement du plus grand nombre. Autrement, il serait absolument impossible qu'il agît ou continua à être un corps et une société, comme le consentement de chaque particulier qui s'y est joint et uni a voulu qu'il fût. Chacun donc est obligé, par ce consentement-là, de se conformer à ce que le plus grand nombre conclut et résout. Aussi, voyons-nous que dans les assemblées qui ont été autorisées par des lois positives, et qui ont reçu de ces lois le pouvoir d'agir, quoi qu'il arrive, que le grand nombre ne soit pas déterminé pour conclure un point, ce que fait et conclut le plus grand nombre est considéré comme étant fait et conclu par tous. Les lois de la nature et de la raison dictant que la chose doit se pratiquer et être regardée de la sorte. 97. Ainsi, chaque particulier, convenant avec les autres de faire un corps politique sous un certain gouvernement, s'oblige, envers chaque membre de cette société, de se soumettre à ce qui aura été déterminé par le plus grand nombre, et d'y consentir, autrement cet accord original, par lequel il s'est incorporé avec d'autres dans une société, ne signifierait rien. Et il n'y aurait plus de convention, s'il demeurait toujours libre et n'avait pas des engagements différents de ceux qu'il avait auparavant dans l'état de nature. Car, quelle apparence, quelle marque de convention et de traité y a-t-il en tout cela? Quel nouvel engagement paraît-il s'il n'est lié par les décrets de la société qu'autant qu'il le trouvera bon et qu'il y consentira actuellement? S'il peut ne se soumettre et consentir aux actes et aux résolutions de sa société, qu'autant et selon qu'il le jugera à propos, il sera toujours dans une aussi grande liberté qu'il était avant l'accord, ou qu'aucune autre personne puisse être dans l'état de nature. 98. Car si le consentement du plus grand nombre ne peut raisonnablement être reçu comme un acte de tous et obliger chaque individu à s'y soumettre. Rien autre chose que le consentement de chaque individu ne sera capable de faire regarder un arrêt et une délibération comme un arrêt et une délibération de tout le corps. Or, si l'on considère les infirmités et les maladies auxquelles les hommes sont exposés, les distractions, les affaires, les différents emplois, qui ne peuvent qu'empêcher, je ne dirais pas seulement, un aussi grand nombre de gens qu'il y en a dans une société politique, mais un beaucoup moins grand nombre de personnes de se trouver dans les assemblées publiques, et que l'on joigne à tout cela la variété des opinions et la contrariété des intérêts, qui ne peuvent qu'être dans toutes les assemblées. On reconnaîtra qu'il serait presque impossible que jamais aucun décret fût valable et reçu. En effet, si l'on entrait en société que sous telle condition, cette entrée serait semblable à l'entrée de Caton au théâtre, tantum ut exiret. Il y entrait seulement pour en sortir. Une telle constitution rendrait le plus fort Léviathan d'une plus courte durée que ne sont les plus faibles créatures, et sa durée ne s'étendrait pas au-delà du jour de sa naissance, ce que nous ne saurions supposer devoir être, sans avoir présupposé, ce qui serait ridicule, que des créatures raisonnables désireraient et établiraient des sociétés uniquement pour les voir se dissoudre. Car, où le plus grand nombre ne peut conclure et obliger le reste à se soumettre à ses décrets, là, on ne saurait résoudre et exécuter la moindre chose. Là, ne saurait se remarquer nul acte, nul mouvement d'un corps. Et par conséquent, cette espèce de corps de société se dissoudrait d'abord. 99. Quiconque, donc, sort de l'état de nature pour entrer dans une société doit être regardé comme ayant remis tout le pouvoir nécessaire aux fins pour lesquelles il y est entré, entre les mains du plus grand nombre des membres, à moins que ceux qui se sont joints pour composer un corps politique ne soient convenus expressément d'un plus grand nombre. Un homme qui s'est joint à une société a remis et donné ce pouvoir dont il s'agit en consentant simplement de s'unir à une société politique, laquelle contient en elle-même toute la convention qui est ou qui doit être entre des particuliers qui se joignent pour former une communauté. Tellement que ce qui a donné naissance à une société politique et qui l'a établie n'est autre chose que le consentement d'un certain nombre d'hommes libres, capables d'être représentés par le plus grand nombre d'eux, et c'est cela, et cela seul, qui peut avoir donné commencement dans le monde à un gouvernement légitime. 100. À cela, on fait deux objections. La première, qu'on ne saurait montrer dans l'histoire aucun exemple d'une compagnie d'hommes indépendants et égaux, les uns à l'égard des autres, qui se soient joints et unis pour composer un corps, et qui, par cette voie, aient commencé à établir un gouvernement. La seconde, qu'il est impossible de droit que les hommes aient fait cela, à cause que, naissant tous sous un gouvernement, ils sont obligés de s'y soumettre, et n'ont pas la liberté de jeter les fondements d'un nouveau. 101. Quant à la première, je réponds qu'il ne faut nullement s'étonner si l'histoire ne nous dit que peu de choses touchant les hommes qui ont vécu ensemble dans l'état de nature. Les inconvénients d'une telle condition, le désir et le besoin de la société, ont obligé ceux qui se trouvaient ensemble en un certain nombre à s'unir incessamment et à composer un corps s'ils souhaitaient que la société durât. Que, si nous ne pouvons pas supposer que des hommes aient jamais été dans l'état de nature parce que nous n'apprenons presque rien sur ce point, nous pouvons aussi douter que les gens qui composaient les armées de Salmanassar ou de Xerxès aient jamais été enfants, à cause que l'histoire ne le marque point, et qu'il n'y ait fait mention d'eux que comme d'hommes faits, que comme d'hommes qui portaient les armes. Le gouvernement précède toujours, sans doute, les registres, et rarement les belles lettres sont cultivées parmi un peuple avant qu'une longue continuation de la société civile ait, par d'autres arts plus nécessaires, pourvu à sa sûreté, à son aise et à son abondance. C'est alors que l'on commence à fouiller dans l'histoire de ses fondateurs et à rechercher son origine, quand la mémoire s'en est perdue ou obscurcie. Car les sociétés ont cela de commun avec les personnes particulières qu'elles sont d'ordinaire fort ignorantes dans leur naissance et dans leur enfance, et si elles apprennent et savent quelque chose, ce n'est que par le moyen des registres et des monuments que d'autres ont conservé, par hasard. Ceux que nous avons du commencement des sociétés politiques, si l'on excepte celle des Juifs, dans laquelle Dieu lui-même est intervenu immédiatement, en accordant à cette nation des faveurs très particulières, nous ont conservé des exemples clairs de ces commencements de sociétés dont j'ai parlé, ou du moins, ils nous en font voir des traces manifestes. 102. Il faut avouer qu'on a un étrange penchant à nier les choses de faits les plus évidents lorsqu'elles ne s'accordent pas avec les hypothèses qu'on a une fois embrassées. Qui est-ce aujourd'hui qui ne m'accordera que Rome et Venise ont commencé par des gens libres et indépendants au regard les unes des autres, entre lesquels il n'y avait nulle supériorité, nulle suggestion naturelle. Que, si nous voulons écouter Joseph Acosta, il nous dira que, dans la plus grande partie de l'Amérique, il ne se trouva nul gouvernement. Il y a de grandes et fort apparentes conjectures, dit-il, que ces gens-là, parlant de ceux du Pérou, n'ont eu durant longtemps ni roi ni communauté, mais qu'ils ont vécu et sont allés en troupe, ainsi que font aujourd'hui ceux qui habitent la Floride, et comme pratiquent encore les Chiricanas et les gens du Brésil, et plusieurs autres nations qui n'ont pas certains rois, mais qui, suivant que l'occasion de la paix ou de la guerre se présente, choisissent leur capitaine selon leur volonté. Livre 1, chapitre 25. Si l'on dit que chacun n'est sujet à son père ou au chef de sa famille, nous avons prouvé que la soumission due par un enfant à son père ne détruit point la liberté qu'il a toujours de se joindre dans la société politique qu'il juge à propos. Mais actuellement libre, et quelque supériorité que certaines politiques veuillent aujourd'hui placer dans quelques-uns d'entre eux, il est constant qu'ils ne la reconnaissent ni ne se l'attribuent point. Mais d'un commun consentement, ils sont tous égaux, jusqu'à ce que, par le même consentement, ils aient établi des gouverneurs sur eux-mêmes. Tellement que toutes leurs sociétés politiques ont commencé par une union volontaire et par un accord mutuel de personnes qui ont agi librement dans le choix qu'ils ont fait de leur gouverneur et de la forme du gouvernement.
103. Je ne doute point que ceux qui vinrent de Sparte avec Palante, et dont Justin fait mention, n'eussent à prouver qu'ils avaient été des gens libres et indépendants les uns à l'égard des autres, et qu'ils avaient établi un gouvernement, et s'y étaient soumis par leur propre consentement. Voilà des exemples que l'histoire nous fournit, des personnes libres et dans l'état de nature, qui s'étant assemblés, ont formé des corps et des sociétés. Et même si, parce que l'on ne pourrait produire sur ce sujet aucun exemple, on était en droit d'en tirer un argument pour prouver que le gouvernement n'a point commencé, ni n'a pu commencer de la manière que nous prétendons. Je crois que les défenseurs de l'empire paternel feraient beaucoup mieux d'abandonner cette sorte de preuve que d'y insister et de la pousser contre la liberté naturelle. Car, quand même ils pourraient alléguer un grand nombre d'exemples tirés de l'histoire des gouvernements, qui auraient commencé par le droit paternel, sur lequel ils auraient été fondés, quoique, après tout, un argument employé pour prouver par ce qui a été ce qui devrait être de droit ne soit pas de grande force, on peut, sans grand danger, accorder ce qu'ils avancent. Mais, si je puis leur donner un conseil, ce serait qu'ils feraient mieux de ne pas rechercher trop l'origine des gouvernements pour connaître comment ils ont commencé de facto, de peur qu'ils ne trouvent dans la fondation de la plupart quelque chose qui favorise peu leur dessein et le pouvoir pour lesquels ils combattent. 104. Mais pour conclure, puisque de notre côté, il paraît même très clairement que les hommes sont naturellement libres et que les exemples pris de l'histoire montrent que les gouvernements du monde qui ont commencé en paix ont été fondés de la manière que nous avons dit et ont été formés par le consentement des peuples, il ne peut plus y avoir lieu de douter du droit et de la justice de ces sortes de gouvernements, ni de l'opinion dans laquelle ont été les hommes à cet égard et de la pratique qu'ils ont observée dans l'érection des sociétés. 105. Je ne veux pas nier, si on pénètre bien avant dans l'histoire, et si l'on remonte aussi haut qu'il est possible vers l'origine des sociétés, on ne les trouve généralement sous le gouvernement et l'administration d'un seul homme. Je suis même fort disposé à croire que, quand une famille était assez nombreuse pour subsister et se soutenir d'elle-même, et qu'elle continuait à demeurer unie en elle-même, mais séparée des autres sans se mêler avec elle, dans un temps où il y avait beaucoup de terres et peu de peuples, le gouvernement commençait et résidait ordinairement dans le père. Car le père, ayant par les lois de la nature le même pouvoir qu'avait tout autre homme de punir comme il jugeait à propos la violation de ses lois, pouvait punir les fautes de ses enfants lors même qu'ils étaient hommes faits et hors de minorité. Et il y a apparence qu'ils se soumettaient tous à lui et consentaient d'être punis tous par ses mains et par son autorité seule, qu'ils se joignaient tous à lui dans le besoin contre celui qui avait fait quelque méchante action, et que par là, il donnait le pouvoir d'exécuter sa sentence pour punir quelque crime, et l'établissait effectivement législateur et gouverneur de tous ceux qui demeuraient unis à sa famille. C'était sans doute la meilleure précaution et le meilleur parti qu'il pouvait prendre. L'affection paternelle ne pouvait que prendre grand soin de ce qui appartenait à chacun et le mettre en sûreté. Et, comme dans leur enfance, ils étaient accoutumés à obéir à leur père, ils trouvaient infailliblement qu'il était plus commode, plus aisé et plus avantageux de se soumettre à lui qu'il ne leur aurait été de se soumettre à quelque autre. Et, s'ils avaient besoin de quelqu'un qui les gouvernât, parce que des gens qui vivent ensemble ne peuvent se passer qu'avec peine de quelque gouvernement, qui pouvait le faire mieux que leur père commun? À moins que sa négligence, sa cruauté ou quelque autre défaut de l'esprit ou du corps ne l'en rendît incapable. Mais quand le père venait à mourir et que le plus proche héritier qu'il laissait n'était pas capable de gouvernement, faute d'âge, de sagesse, de prudence, de courage ou de quelque autre qualité, ou bien, lorsque diverses familles convenaient de s'unir et de continuer à vivre ensemble dans une même société, il ne faut point douter qu'alors, tous ceux qui composaient ces familles n'usassent pleinement de leur liberté naturelle pour établir sur eux celui qu'ils jugeaient le plus capable de les gouverner. Conformément à cela, nous voyons que les peuples de l'Amérique, qui vivent éloignés des épées des conquérants et de la domination ambitieuse des deux grands empires du Pérou et du Mexique, jouissent de leur naturelle liberté, quoique, coeteris paribus, ils préfèrent d'ordinaire l'héritier du roi défunt. Cependant, s'ils viennent à remarquer en lui quelques faiblesses, quelques défauts considérables, quelques incapacités essentielles, ils le laissent et ils établissent pour leur gouverneur le plus vaillant et le plus brave d'entre eux. 106. Ainsi, quoiqu'en remontant aussi haut que les monuments de l'histoire des nations le permettent, l'on trouve que, dans le temps que le monde se peuplait, le gouvernement des peuples était entre les mains d'un seul, cela ne détruit pourtant point ce que j'affirme, savoir que le commencement de la société politique dépend du consentement de chaque particulier qui veut bien se joindre avec d'autres pour composer une société, en sorte que tous ceux qui y entrent peuvent établir la forme de gouvernement qu'ils jugent à propos. Mais cela ayant donné occasion à quelques-uns de tomber dans l'erreur et de s'imaginer que, par nature, le gouvernement est monarchique et appartient au père, il ne faut point oublier d'examiner pourquoi, du commencement, les peuples se sont attachés à cette forme-là de gouvernement. Dans la première institution des communautés, la prééminence des pères peut l'avoir produite, peut avoir été cause que tout le pouvoir a été remis entre les mains d'un seul. Cependant, il est clair que ce qui obligea dans la suite de continuer à vivre dans la même forme de gouvernement ne regardez point l'autorité paternelle, puisque toutes les petites monarchies proches de leur origine ont été ordinairement, du moins par occasion, électives. 107. Premièrement donc, dans le commencement des choses, le gouvernement des pères ayant accoutumé leurs enfants dès leur bas âge au gouvernement d'un seul homme, et leur ayant appris que lorsqu'il était exercé avec soin, diligence et affection à l'égard de ceux qui y étaient soumis, il suffisait pour protéger et procurer tout le bonheur qu'on pouvait espérer raisonnablement, il ne faut pas s'étonner si les hommes se sont attachés à cette forme de gouvernement à laquelle ils avaient été accoutumés tous dès leur enfance, et qu'ils avaient, outre cela, trouvé par l'expérience aisée et sûre. On peut ajouter à cette réflexion que la monarchie étant quelque chose de simple et qui se présentait de soi-même à l'esprit des hommes, que l'expérience n'avait pas encore instruit des différentes formes possibles du gouvernement et qui n'avait aucune idée de l'ambition ou de l'insolence des empires, ils n'ont pu se mettre en garde contre les maux de l'autorité suprême et les inconvénients du pouvoir absolu que la monarchie, dans la succession des temps, devait s'attribuer et exercer. On trouvera, de même, moins étrange qu'ils ne se soient pas mis en peine de penser aux moyens de réprimer les entreprises outrées de ceux à qui ils avaient commis l'autorité, et de balancer le pouvoir du gouvernement en mettant diverses parties de ce pouvoir en différentes mains. Ils n'avaient jamais senti l'oppression de la domination tyrannique, et les mœurs de leur temps, leurs possessions, leur manière de vivre, qui fournissaient peu de matière à l'avarice ou à l'ambition, ne leur faisaient point appréhender cette domination et ne les obligeaient point de se précautionner contre elle. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'ils aient établi cette forme de gouvernement qui, comme j'ai dit, non seulement s'offrait d'abord à l'esprit, mais était la plus conforme à leurs conditions et à leur état présent. Car ils avaient bien plus besoin de défense contre les invasions et les attentats du dehors que d'un grand nombre de lois, de gouverneurs et d'officiers pour régler le dedans et punir les criminels, à cause qu'ils n'avaient alors que peu de biens propres et qu'il y en avait peu d'entre eux qui fissent tort aux autres. Comme ils s'étaient joints en société volontairement et d'un commun accord, on ne peut que supposer qu'ils avaient de la bienveillance et de l'affection les uns pour les autres et qu'il y avait entre eux une mutuelle confiance. Ils craignaient bien plus ceux qui n'étaient pas de leur corps qu'ils ne se craignaient les uns les autres. Et par conséquent, leur principal soin et leur principale attention étaient de se mettre à couvert de la violence du dehors. Et il leur était fort naturel d'établir entre eux la forme de gouvernement qui pouvait le plus servir à cette fin, et de choisir le plus sage et le plus brave, qui les conduisit dans leur guerre et les mena, avec succès, contre leurs ennemis, et qui, en cela principalement, fut leur gouverneur. Aussi voyons-nous que les rois des Indiens dans l'Amérique, dont les manières et les coutumes doivent toujours être regardées comme un modèle de ce qui s'est pratiqué dans le premier âge du monde, en Asie et en Europe, pendant que les habitants de cette partie de la terre, si éloignés des autres, ont été en petit nombre, et que ce petit nombre de gens, dans un pays si grand, et le peu d'usage et de connaissance de l'argent monnayé, ne les ont pas sollicités à étendre leurs possessions et leurs terres, ou à contester, pour une étendue déserte de pays, n'ont été guère plus que généraux de leur armée. Quoiqu'ils commandent absolument pendant la guerre, ils n'exercent chez eux, en temps de paix, qu'une autorité fort mince, et non qu'une souveraineté très modérée. Les résolutions au sujet de la paix et de la guerre sont, pour l'ordinaire, les résolutions du peuple ou du conseil. Du reste, la guerre elle-même, qui ne s'accommode guère de la pluralité des généraux, fait tomber naturellement le commandement entre les mains des rois seuls. 109. Parmi le peuple d'Israël même, le principal emploi des juges et des premiers rois semble n'avoir consisté qu'à faire la fonction de général en temps de guerre et à conduire les armées. Cela paraît clairement, non seulement par cette expression si fréquente de l'Écriture, sortir et revenir devant le peuple, ce qui était se mettre en marche pour la guerre et revenir ensuite à la tête des troupes, mais aussi particulièrement par l'histoire de Jephté. Les Ammonites faisaient la guerre à Israël. Les Galaadites, saisis de crainte, envoyèrent des députés à Jephté, qu'ils avaient chassé comme un bâtard de leur famille, et convinrent avec lui qu'il serait leur gouverneur, à condition qu'il ait secouru contre les Ammonites. Le peuple l'établit sur soi pour chef et pour capitaine, ce qui était, comme il paraît, la même chose que juge. Et Jephté jugea Israël, c'est-à-dire fut son général 6 ans. De même, lorsque Jonathan reproche aux Shishémites les obligations qu'ils avaient à Gédéon, qui avait été leur juge et leur conducteur, il leur dit « Mon père a combattu pour vous et a hasardé sa vie et vous a délivré des mains de Madian. » Il ne dit autre chose de lui, ainsi qu'on voit, sinon qu'il avait agi comme un général d'armée a coutume de faire. Certainement, c'est tout ce qui se trouve dans son histoire, aussi bien que dans l'histoire du reste des juges. Abimélec, particulièrement, est appelé roi, quoique tout au plus, il ne fût que général. Et lorsque les enfants d'Israël, étant las de la mauvaise conduite des fils de Samuel, désirèrent avoir un roi comme toutes les nations qui les jugea et sortit devant eux et conduisit leur guerre, que Dieu leur accorda ce qu'ils souhaitaient avec tant d'ardeur, il dit à Samuel : Je t'enverrai un homme, et tu l'oindras, pour être capitaine de mon peuple, Israël, et il délivrera mon peuple des mains des Philistins. Comme si toute l'occupation et tout l'emploi du roi des Israélites ne consistaient qu'à conduire leurs armées et à combattre pour leur défense. Aussi, lorsque Saül fut sacré, Samuel, en versant une fiole d'huile sur lui, lui déclara que le Seigneur l'avait oint sur son héritage pour en être le capitaine. C'est par la même raison et dans les mêmes vues que ceux qui, après que Saül eut été choisi solennellement et salué roi par les tribus, à Mispa, étant fâchés qu'il fût le roi, ne firent d'autres objections que celles-ci. Comment nous délivrerait cet homme? Comme s'ils avaient dit, cet homme n'est pas propre pour être notre roi. Il n'a pas assez d'adresse, d'habileté, de conduite, de capacité pour nous défendre. Quand Dieu, encore, résolut de transférer le gouvernement et de le donner à David, Samuel parla à Saül de cette sorte. Mais maintenant, ton règne ne sera point affermi. Le Seigneur s'est choisi un homme selon son cœur, et le Seigneur lui a commandé d'être capitaine de son peuple, comme si toute l'autorité royale n'était autre chose que l'autorité en général. Aussi, lorsque les tribus qui étaient restées fidèles à la famille de Saül après sa mort et s'étaient opposées de tout leur pouvoir au règne de David, allèrent enfin en Hébron pour lui faire hommage, elles alléguèrent, entre les motifs qui les obligeaient de se soumettre à lui et de reconnaître son autorité, qu'il était effectivement leur roi du temps même de Saül, et qu'ainsi, il n'y avait nulle raison de ne pas le recevoir et considérer comme le roi dans le temps et les circonstances où il se trouvait. Ci-devant, quand Saül était roi sur nous, tu étais celui qui menait et ramenait Israël. Et le Seigneur t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et seras capitaine d'Israël. 110. Soit donc qu'une famille, par degré, ait formé une communauté, et que l'autorité paternelle ayant été continuée et ayant passé dans l'aîné, de sorte que chacun, à son tour, l'ayant exercée, chacun aussi s'y était soumis tacitement, surtout puisque cette facilité, cette égalité, cette bonté qui se trouvait dans ceux qui composaient une même famille, empêchait que personne ne pût être offensé jusqu'à ce que le temps eût confirmé cette autorité et fondé un droit de succession, soit que diverses familles ou les descendants de diverses familles que le hasard, le voisinage ou les affaires avaient ramassées se soient par ce moyen jointes en société, le besoin d'un général dont la conduite et la valeur pu les défendre contre leurs ennemis dans la guerre, et la grande confiance qu'inspirait naturellement l'innocence et la sincérité de ces pauvres, mais vertueux temps, tels qu'ont été presque tous ceux qui ont donné naissance au gouvernement, qui ont été jamais dans le monde, ont engagé les premiers instituteurs des communautés à remettre généralement le gouvernement entre les mains d'un seul. Le bien public, la sûreté, le but des communautés obligèrent d'en user de la sorte dans l'enfance, pour ainsi dire, des sociétés et des États. Et l'on ne peut disconvenir que si l'on avait pratiqué cela, les nouvelles les jeunes sociétés n'auraient pu subsister longtemps. Sans ces pères sages et affectionnés dont nous avons parlé tant de fois, sans les soins de ces gouverneurs établis, tous les gouvernements seraient bientôt fondus et auraient été détruits dans la faiblesse et les infirmités de leur enfance. Le prince et le peuple seraient péris tous ensemble dans peu de temps. 111. Le premier âge du monde était un âge d'or. L'ambition, l'avarice, amor scelerotus habendi, les vices qui règnent aujourd'hui, n'avaient pas encore corrompu les cœurs des hommes dans ce bel âge et ne leur avaient pas donné de fausses idées au sujet du pouvoir des princes et des gouverneurs. Comme il y avait beaucoup plus de vertus, les gouverneurs y étaient beaucoup meilleurs et les sujets moins vicieux. En ce temps-là, les gouverneurs et les magistrats, d'un côté, n'étendaient pas leurs pouvoirs et leurs privilèges pour opprimer le peuple. Ni, de l'autre, le peuple ne se plaignait point des privilèges et de la conduite des gouverneurs et des magistrats, et ne s'efforçait point de diminuer ou de réprimer leurs pouvoirs. Ainsi, il n'y avait entre eux nulle contestation au sujet du gouvernement. Mais lorsque l'ambition, le luxe et l'avarice, dans les siècles suivants, ont voulu retenir et accroître le pouvoir, sans se mettre en peine de considérer comment et pour quelle fin il avait été commis, et que la flatterie s'y étant mêlée, a appris au prince à avoir des intérêts distincts et séparés de ceux du peuple. On a cru qu'il était nécessaire d'examiner avec plus de soin l'origine et les droits du gouvernement et de tâcher de trouver des moyens pour réprimer les excès et de prévenir les abus de ce pouvoir qu'on avait, pour son propre bien, confié à d'autres et qu'on voyait pourtant n'être employé qu'à faire du mal à ceux qui l'avaient remis. 112. Ainsi, nous voyons combien il est probable que les hommes qui étaient naturellement libres et qui, de leur propre consentement, se sont soumis au gouvernement de leur père ou se sont joints ensemble pour faire de diverses familles un seul et même corps, ont remis le gouvernement entre les mains d'un seul, sans limiter par des conditions expresses ou régler son pouvoir, qu'il croit être assez en sûreté et devoir conserver assez sa justice et sa droiture dans la probité et dans la prudence de celui qui avait été élu. Il ne leur était jamais monté dans l'esprit que la monarchie fût iure divino, de droit divin. On n'avait jamais entendu parler de rien de semblable avant que ce grand mystère eût été révélé par la théologie des derniers siècles. Ils ne regardaient point non plus le pouvoir paternel comme un droit à la domination ou comme le fondement de tous les gouvernements. Il suffit donc d'être convaincu que les lumières que l'histoire peut nous fournir sur ce point nous autorisent à conclure que tous les commencements paisibles des gouvernements ont eu pour cause le consentement des peuples. Je dis les consentements paisibles, parce que j'aurai occasion, dans un autre endroit, de parler des conquêtes que quelques-uns estiment être des causes du commencement des gouvernements. 113. L'autre objection que je trouve être faite contre le commencement des sociétés politiques, telles que je l'ai représentée, est celle-ci. Que tous les hommes étant nés sous quelque gouvernement, il est impossible qu'aucun d'eux ait jamais été libre, ait jamais eu la liberté de se joindre à d'autres pour en commencer un nouveau, ou qu'il ait jamais pu ériger un légitime gouvernement. Si ce raisonnement est juste, je demande comment sont devenues légitimes les monarchies dans ce monde. Car si quelqu'un peut me montrer un homme, dans quelques siècles, qui ait été en liberté de commencer une monarchie légitime, je lui en montrerai 10 autres, qui, dans le même temps, auront eu la liberté et le pouvoir de s'unir et de commencer un nouveau gouvernement sous la forme royale ou sous quelque autre forme. N'est-ce pas une démonstration évidente que si quelqu'un, né sous la domination d'un autre, a été assez libre pour avoir droit de commander aux autres, dans un empire nouveau et distinct, tous ceux qui sont nés sous la domination d'autrui peuvent avoir été aussi libres et être devenus, par la même voie, les gouverneurs ou les sujets d'un gouvernement distinct et séparé. Et ainsi, par le propre principe de ceux qui font l'objection, ou bien tous les hommes sont nés libres à cet égard, ou il n'y a qu'un seul légitime prince et un seul gouvernement juste dans le monde. Qu'ils aient la bonté de nous marquer et indiquer simplement quel il est. Je ne doute point que tout le monde ne soit d'abord disposé à lui faire hommage, à s'y soumettre et à lui obéir. 114. Quoique cette réponse, qui fait voir que l'objection jette ceux qui la proposent dans les mêmes difficultés où ils veulent jeter les autres, puisse suffire, je tâcherai néanmoins de mettre encore mieux dans tout son jour la faiblesse de l'argument des adversaires. Tous les hommes, disent-ils, sont nés sous un gouvernement, et par cette raison, ils ne sont point dans la liberté d'en instituer aucun nouveau. Chacun est sujet de son père ou de son prince, et par conséquent, chacun est dans une perpétuelle obligation de sujétion et de fidélité. Il est clair que jamais les hommes n'ont considéré cette sujétion naturelle dans laquelle ils soient nés à l'égard de leur père ou à l'égard de leur prince, comme quelque chose qui les obligea, sans leur propre consentement, à se soumettre à eux ou à leurs héritiers. 115. Il n'y a pas dans l'histoire, soit sacrée, soit profane, de plus fréquents exemples que ceux des gens qui se sont retirés de l'obéissance et de la juridiction sous laquelle ils étaient nés, et de la famille ou de la communauté dans laquelle ils avaient pris naissance et avaient été nourris, et qui ont établi de nouveaux gouvernements en d'autres endroits. C'est ce qui a produit un si grand nombre de petites sociétés au commencement des siècles, lesquelles se répandirent peu à peu en différents lieux et se multiplièrent autant que l'occasion s'en présenta, et qu'il se trouva de place pour les contenir, jusqu'à ce que les plus fortes engloutirent les plus faibles, et qu'ensuite, les plus grands empires étant tombés dans la décadence, et ayant été, pour ainsi dire, mis en pièces, se sont partagés en diverses petites dominations. Or, toutes ces choses sont de puissants témoignages contre la souveraineté paternelle et prouvent clairement que ce n'a point été un droit naturel du père passé à ses héritiers qui a fondé les gouvernements dans le commencement du monde, puisqu'il est impossible, sur ce fondement-là, qu'il y ait eu tant de petits royaumes et qu'il ne devrait s'y être trouvé qu'une seule monarchie universelle, s'il est vrai que les hommes n'aient pas eu la liberté de se séparer de leur famille et de leur gouvernement tel qu'il ait été, et d'ériger différentes communautés et d'autres gouvernements tels qu'ils jugeaient à propos. 116. Telle a été la pratique du monde depuis son commencement jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, ceux qui sont nés sous un gouvernement établi et ancien ont autant de droits et de libertés qu'on n'en a jamais eu et qu'ils en pourraient avoir s'ils étaient nés dans un désert dont les habitants ne reconnaîtraient nulle loi et ne vivraient sous aucun règlement. J'affirme ceci parce que ceux qui veulent nous persuader que ceux qui sont nés sous un gouvernement y sont naturellement sujets et n'ont plus de droits et de prétentions à la liberté de l'état de nature, ne produisent d'autres raisons, si l'on excepte celles qu'ils tirent du pouvoir paternel, à laquelle nous avons déjà répondu, ne produisent, dis-je, d'autres raisons que celles-ci. Savoir que nos pères, ayant renoncé à leur liberté naturelle et s'étant soumis à un gouvernement, se sont mis et ont mis leurs descendants dans l'obligation d'être perpétuellement sujets à ce gouvernement-là. J'avoue qu'un homme est obligé d'exécuter et accomplir les promesses qu'il a faites pour soi et de se conduire conformément aux engagements dans lesquels il est entré. Mais il ne peut, par aucune convention, lier ses enfants ou sa postérité. Car un fils, lorsqu'il est majeur, étant aussi libre que son père ait jamais été, aucun acte du père ne peut plus ravir au fils la liberté qu'aucun acte d'aucun autre homme peut faire. Un père peut, à la vérité, attacher certaines conditions aux terres dont il jouit en qualité de sujet d'une communauté et obliger son fils à être membre de cette communauté s'il veut jouir, comme lui, des possessions de ses pères. La raison de cela est que les biens qu'un père possède étant ses biens propres, il en peut disposer comme il lui plaît. 117. Or, cela a donné occasion de tomber généralement dans l'erreur sur cette matière, car les communautés, ne permettant point qu'aucune de leurs terres soit démembrée, et voulant qu'elles ne soient toutes possédées que par ceux qui sont de la communauté, un fils ne peut d'ordinaire jouir des possessions de son père que sous les mêmes conditions sous lesquelles son père en a joui, c'est-à-dire qu'en devenant un membre de la même société, et se soumettant par conséquent au gouvernement qui y est établi, tout de même que tout autre sujet de cette société-là. Ainsi, le consentement d'homme libre né dans une société, lequel seul est capable de les en faire membres, étant donné séparément par chacun à son tour, selon qu'il vient en âge et non par une multitude de personnes assemblées, le peuple n'y prend point garde et, pensant ou que cette sorte de consentement ne se donne point, ou que ce consentement n'est point nécessaire, il conclut que tous sont naturellement sujets en tant qu'hommes. 118. Il est manifeste que les gouvernements eux-mêmes conçoivent et considèrent la chose autrement. Ils ne prétendent point avoir de pouvoir sur le fils, parce qu'ils en ont sur le père. Et ils ne regardent point les enfants comme leurs sujets, sur ce fondement que leurs pères le sont. Si un sujet d'Angleterre a, en France, un enfant d'une femme anglaise, de qui sera sujet cet enfant? Non du roi d'Angleterre, car auparavant, il faut qu'il obtienne la permission d'avoir part à ce privilège. Non du roi de France, car alors son père a la liberté de l'emporter en un autre pays et de l'élever comme il lui plaît. Et qui, je vous prie, a jamais été regardé comme un traître ou un déserteur pour avoir pris naissance dans un pays, de parents qui y étaient étrangers et y avoir vécu dans un autre. Il est donc clair, par la pratique des gouvernements même, aussi bien que par les lois de la droite raison, qu'un enfant ne naît sujet d'aucun pays ni d'aucun gouvernement. Il demeure sous la tutelle et l'autorité de son père jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'âge de discrétion. Alors il est homme libre, il est dans la liberté de choisir le gouvernement sous lequel il trouve bon de vivre et de s'unir au corps politique qui lui plaît le plus. En effet, si le fils d'un Anglais, né en France, est dans cette liberté-là et peut en user de la sorte, il est évident que, de ce que son père est sujet de ce royaume, il ne s'ensuit point qu'il soit obligé de l'être. Si le père même a des engagements à cet égard, ce n'est point à cause de quelque traité qu'aient fait ses ancêtres. Pourquoi donc son fils, par la même raison, n'aura-t-il pas la même liberté que lui, quand même il serait dans quelque autre lieu que ce fût, puisque le pouvoir qu'un père a naturellement sur son enfant est le même partout, en quelque lieu qu'il naisse, et que les liens des obligations naturelles ne sont point renfermés dans les limites positives des royaumes et des communautés. 119. Chacun étant naturellement libre, ainsi qu'il a été montré, et rien n'étant capable de le mettre sous la sujétion d'un autre pouvoir sur la terre que son propre consentement, il faut considérer en quoi consiste cette déclaration suffisante du consentement d'un homme pour le rendre sujet aux lois de quelque gouvernement. On distingue communément entre un consentement express et un consentement tacite. Et cette distinction fait à notre sujet. Personne ne doutera, je pense, que le consentement express de quelqu'un qui entre dans une société ne le rende parfait membre de cette société-là et sujet du gouvernement auquel il s'est soumis. La difficulté est de savoir ce qui doit être regardé comme un consentement tacite et jusqu'où il oblige et lie, c'est-à-dire jusqu'où quelqu'un peut être censé avoir consenti et s'être soumis à un gouvernement, quoiqu'il n'ait pas proféré une seule parole sur ce sujet. Je dis que tout homme qui a quelque possession, qui jouit de quelque terre et de quelque bien qui est de la domination d'un gouvernement, donne par là son consentement tacite et y est obligé d'obéir aux lois de ce gouvernement tant qu'il jouit des biens qui y sont renfermés, autant que puisse l'être aucun de ceux qui s'y trouvent soumis. Si ce qu'il possède est une terre qui lui appartienne et à ses héritiers, ou une maison où il n'est à loger qu'une semaine, ou s'il voyage simplement et librement dans les grands chemins, en un mot, s'il est sur le territoire d'un gouvernement, il doit être regardé comme ayant donné son consentement tacite et comme s'étant soumis aux lois de ce gouvernement-là. 120. Pour comprendre encore mieux ceci, il est à propos de considérer que quelqu'un qui, au commencement, s'est incorporé à quelque communauté, a en même temps, par cet acte, annexé et soumis à cette communauté les possessions qu'il a ou qu'il pourra acquérir, pourvu qu'elles n'appartiennent point déjà à quelque autre gouvernement. En effet, ce serait une contradiction manifeste que de dire qu'un homme entre dans une société pour la sûreté et l'établissement de ses biens propres, et de supposer au même temps que ses biens, que ses terres, dont la propriété est réglée et établie par les lois de la société, soient exemptes de la juridiction du gouvernement, à laquelle et le propriétaire et la propriété sont soumis. C'est pourquoi, par le même acte par lequel quelqu'un unit sa personne, qui était auparavant libre, à quelque communauté, il y unit pareillement ses possessions, qui étaient auparavant libres. Et sa personne et ses possessions deviennent également sujettes au gouvernement et à la domination de cette communauté. Quiconque, donc, désormais, poursuit la permission de posséder quelque héritage ou de jouir autrement de quelque partie de terre annexée et soumise au gouvernement de cette société, doit prendre ce bien-là sous la condition sous laquelle il se trouve, qui est d'être soumis au gouvernement de cette société sous la juridiction de laquelle il est autant que puisse être aucun sujet du même gouvernement. 121. Mais si le gouvernement n'a de juridiction directe que sur les terres et sur les possesseurs, considérés précisément comme possesseurs, c'est-à-dire comme des gens qui possèdent des biens et habitent dans une société, mais qui ne s'y sont pas encore incorporés. L'obligation où ils sont, en vertu des biens qu'ils possèdent, de se soumettre au gouvernement qui y est établi, commence et finit avec la jouissance de ces biens. Tellement que toutes les fois que des propriétaires de cette nature, qui n'ont donné qu'un consentement tacite au gouvernement, veulent, par donation, par vente ou autrement, quitter leur possession, ils sont en liberté de s'incorporer dans une autre communauté ou de convenir avec d'autres pour en ériger une nouvelle, in vacuis locis, en quelque endroit du monde qui soit libre et sans possesseur. Mais si un homme a, par un accord actuel et par une déclaration expresse, donné son consentement pour être de quelque société, il est perpétuellement et indispensablement obligé d'en être, et il doit être constamment soumis toute sa vie et ne peut rentrer dans l'état de nature, à moins que, par quelque calamité, le gouvernement ne vînt à se dissoudre. 122. Mais se soumettre aux lois d'un pays, vivre paisiblement et jouir des privilèges et de la protection de ce pays sont des circonstances qui ne rendent point un homme membre de la société qui y est établie. Ce n'est qu'une protection locale et qu'un hommage local qui doivent se trouver entre des gens qui ne sont point en état de guerre. Mais cela ne rend pas plus un homme membre et sujet perpétuel d'une société qu'un autre le serait de quelqu'un dans la famille duquel il trouverait bon de demeurer quelque temps, encore que, pendant qu'il continuerait à y être, il fût obligé de se conformer aux règlements qu'on y suivrait. Aussi, voyons-nous que les étrangers qui passent toute leur vie dans d'autres états que ceux dont ils sont sujets et jouissent des privilèges et de la protection qu'on y accorde, quoiqu'il soit tenu, même en conscience, de se soumettre à l'administration qui y est établie, ne deviennent point néanmoins, par là, sujets ou membres de ces États. Rien ne peut rendre un homme membre d'une société qu'une entrée actuelle, qu'un engagement positif, que des promesses et des conventions expresses. Or, voilà ce que je pense touchant le commencement des sociétés politiques et touchant ce consentement qui rend quelqu'un membre d'une société politique.